Voilà, bienvenue à chacune et chacun. J'aimerais ce soir approfondir un thème avec vous qui est très important, c'est la spécificité de la vie chrétienne. Il y avait un jour un vicaire général, c'est un collaborateur de l'évêque, qui était parti visiter des écoles et il préparait des jeunes enfants à la confirmation. Et puis il n'avait pas un charisme exceptionnel, extraordinaire pour parler aux jeunes. Alors tout le monde paniquait un petit peu, les catéchistes étaient un petit peu inquiets de voir le vicaire général débarquer dans la classe. Et puis il y avait notamment un jeune qui était au premier rang, qui était un petit peu lent et un petit peu distrait. On a dit on va le mettre tout au fond de la classe pour pas qu'il ait la question du vicaire général, parce que si c'est lui qui répond, ça va être complètement dehors de la plaque. Le vicaire général arrive, un peu maladroit, et pose la question qui tue, vous savez, « Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes ?» Je vous pose la question. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Alors tout le monde baisse la tête, bien sûr, réflexe immédiat des étudiants attentifs, et regarde leur cahier, sauf un, qui était justement ce jeune garçon, qui avait les yeux grands ouverts et qui regardait droit devant lui comme ça. Alors le vicaire général reprend la question, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Et le seul regard qu'il a réussi à croiser, c'était de ce jeune garçon. Alors, il lui dit, toi, tu t'appelles comment? Je crois que c'est Jérémie ou je sais pas quoi. Alors, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Alors, lui, il regarde, puis il dit, ben, monsieur le curé, vous savez, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il peut. Ben, c'est un petit peu ça, voyez-vous, dont je vais vous parler ce soir. Mais qu'est-ce que peut faire l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Qu'est-ce qui va se passer? Et je crois que on a perdu un petit peu de vue la spécificité de la vie chrétienne. Ce qui fait vraiment que la vie est chrétienne, qu'elle est différente de toutes les autres vies. C'était Gandhi qui disait à un moment donné, lorsqu'il avait entendu parler, je ne sais plus quelle était l'occasion parce qu'il ne le précise pas directement, mais en tout cas il a eu connaissance de la vie du fameux père Damien, vous savez, de Molokai, ce prêtre belge qui était parti dans cette île de lépreux et qui avait commencé à vivre avec eux, à partager l'évangile, à les soigner, à leur donner la joie dans une île où les gens mouraient et pourrissaient, j'allais dire, avec leur lèpre, lui a redonné toute une espérance leur milieu, et puis il est mort lépreux parmi les lépreux. Et il était donc béatifié, canonisé. Et Gandhi, qui a eu connaissance de cet homme, il disait « L'Église compte parmi les siens des milliers d'hommes et de femmes qui ont sacrifié leur vie au service des lépreux. Il vaudrait la peine de rechercher à quelle source s'alimente un tel héroïsme. » À quelle source s'alimente un tel héroïsme? Ben, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Comment se fait-il qu'il y ait, à des moments donnés dans la vie des chrétiens, cette héroïcité? Vous savez que dans les critères de béatification et canonisation, une des premières choses qu'on va regarder, c'est l'héroïcité des vertus. Comment les gens ont vécu la vie chrétienne avec un degré tout particulier, et où est la source à laquelle ils ont puisé pour pouvoir vivre cette héroïcité? Alors, ceci dit, on se dit, mais pourtant on fait l'expérience d'une misère, on fait l'expérience de la pauvreté. Et on dit tous, mais les chrétiens, c'est pas des gens différents des autres. Et c'est vrai, nous partageons avec tous cette vie humaine, cette pâte humaine dans laquelle nous sommes pris, parfois engoncés même, cette lourdeur de notre humanité. Et on se dit, mais alors qu'est-ce qui va faire la différence entre cette expérience humaine existentielle, et puis la gentillesse qu'on peut avoir à un certain moment donné, et puis la spécificité chrétienne, le renversement que va produire le christianisme? Cette expérience de la misère, elle est vraiment centrale. C'était André Gide qui raconte dans un de ses livres, il écrit 19 septembre 1906, la tempête a fait rage toute la nuit. Ce matin, il grêle abondamment, je me lève, la tête et le cœur lourds et vides, pleins de tout le poids de l'enfer. Je suis le noyé qui perd courage et ne se défend déjà plus que faiblement. Les trois appels ont le même son. Il est temps, il est grand temps, il n'est plus temps. De sorte qu'on ne le distingue pas l'un de l'autre et que sonne déjà le troisième, tandis qu'on se croit encore au premier. Et ce drame qu'il va vivre, de se rendre compte, je ne peux plus changer, c'est fini. Je suis pris dans un mouvement, il n'y a plus d'issue possible. Il est temps, il est grand temps, et puis il n'est plus temps, c'est trop tard, quoi, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va me sortir de ma lourdeur, de ma pesanteur, de ma gravité. Une dame merveilleuse qui s'appelle Madeleine Delbrel qui écrivait une lettre un peu particulière, lettre à un vétérinaire. Monsieur, en 50 ans de vie, j'ai le plaisir de recevoir les soins de 10 médecins. J'ai eu la chance d'en rencontrer deux d'humains. Ils sont malheureusement morts et ne puis espérer une troisième chance.